bien bonjour à tous. Très heureux d'être ici ce matin, bien content de vous accueillir ici ce matin. Et puis, salutations à ceux qui nous écoutent sur l'Internet, fidèlement chaque semaine. Vous savez, c'est un grand départ, on est bien content. C'est le pré-lancement ce matin de Libération 21. Officiellement, ça commence dimanche prochain, ça va durer 3 semaines. C'est 21 jours de prière et de jeûne. Vous n'êtes pas obligé de jeûner pendant 21 jours. C'est à votre discrétion. Vous pouvez jeûner juste un repas, vous pouvez jeûner, vous pouvez ne pas jeûner, comme vous pouvez même jeûner, peut-être mettre à part un temps, peut-être ne pas regarder la télévision, peut-être une émission que vous aimez bien. Vous dites, moi, je vais mettre ça de côté, là, je vais aller peut-être plus prier, passer du temps avec Dieu. Alors, c'est libre à vous. Alors, il va même avoir sur notre site Internet de l'information là-dessus sur le jeûne. Vous avez reçu sur votre chaise un dépliant qui vous donne toutes les activités qu'on va avoir dans les 3 prochaines semaines, qui commencent officiellement dimanche prochain. Donc, regardez ça attentivement chez vous autour d'un bon café, là. Et puis, vous allez voir, il y a plein de belles choses cette année encore. Chaque année, on dirait que ça s'améliore. On va avoir même Acte 21, comme Dominique vous l'a annoncé, une belle équipe de louanges. Et vous aurez l'opportunité de venir vraiment louer le Seigneur ensemble. Vous avez aussi une page web que nous avons préparée pour vous. Et puis, vous pouvez aller à l'adresse, non, ce ne serait pas ça, ça serait le message, ce serait ici, église-le-sentier.com/libération21, pas d'accent, et puis vous allez tomber directement sur le site où il donne des informations de toutes les activités. Non seulement ça, vous allez recevoir aussi, vous avez sur ce site un manuel de prière et de méditation que vous pouvez prendre chaque jour à partir de dimanche prochain, une méditation. Et puis, une belle occasion pour vous de prier chaque jour. C'est vraiment court, alors c'est pas long. Ça vous donne vraiment un bel outil. Marie-Josée Brochu nous a préparé ça, a fait du beau travail, travaille pas mal fort là-dessus. Donc, on est très content pour ça. Ça sera même, vous allez pouvoir le mettre même sur votre... on va pouvoir vous l'envoyer aussi par Grandir Ensemble. Grandir Ensemble, c'est la lettre de nouvelles que nous avons à l'Église ici. Vous avez juste à donner votre nom si vous n'êtes pas encore connecté. Et puis, au kiosque, avec votre adresse courriel, vous allez recevoir des informations sur l'Église, qu'on fait ici chaque semaine, un peu les annonces. Mais non seulement ça, c'est que vous allez recevoir aussi une portion de cette méditation-là chaque semaine. Pour des groupes maison aussi, on espère que vous êtes dans un groupe maison. Et dans un groupe maison, nous avons préparé aussi, une belle équipe a préparé des études bibliques pour ça, pour les 3 prochaines semaines. Et si vous n'êtes pas inscrit encore, ça va être autour du thème qu'on va voir cette année. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez donner au kiosque. Si vous n'êtes pas dans un groupe maison, vous pouvez aller au kiosque, donner votre nom, et puis on va s'occuper de vous. Notre frère Éric va s'occuper de vous. Aussi, les bracelets, c'est notre façon de s'engager. Vous avez vu sur le mur ici, il y a des bracelets. Chaque année, on a une belle liste de beaucoup de bracelets à offrir, et à chaque année, c'est vraiment le fun. Et ça, c'est votre façon de vous engager. C'est votre façon de dire, moi, je m'embarque dans ce mouvement de prière. C'est ça que c'est, la Libération 21. Il y a des gens qui se sont ajoutés avec nous depuis quelques mois. La Libération 21, c'est quoi? C'est un mouvement de 21 jours où toute l'Église ensemble, on veut faire un mouvement de prière. Et quelqu'un me dit ce matin, « Hey, je suis vraiment content qu'on est arrivé à la Libération 21. Il me semble qu'on a tellement besoin de prière. » Et effectivement, on a besoin que Dieu fasse un réveil. Et c'est ça, Libération 21. On veut demander à Dieu, on veut se concentrer ensemble, demander à Dieu de prier. Alors, embarquez avec nous, vous prenez un bracelet, vous mettez votre nom, c'est une façon de vraiment vous rappeler que le bracelet, chaque jour, de prier que Dieu fasse un réveil. Alors, on est vraiment excités parce que chaque année, on entend tellement de beaux témoignages. Le dernier dimanche de Libération 21, on a l'occasion d'écouter des témoignages dans l'Assemblée et c'est toujours touchant, toujours agréable. Maintenant, le thème de cette année, c'est être en mission avec Dieu. Ça vous excite? Hey, je sais à quoi vous pensez tout de suite. Hein, on pense mission, puis on pense, « Oh non, parle-moi pas de ça. Hey, d'autres affaires à faire, j'ai peur, je ne suis pas capable, je suis gêné. » Je sais ce que vous pensez. Mais vous savez quoi? Vous savez pourquoi on a peur de la mission? Parce qu'on oublie qui on est. On oublie notre nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. On oublie ça. Et c'est ce qu'on veut faire au cours des prochaines semaines. On veut regarder la mission. Mais la mission fondée sur la nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Et ça fait toute la différence. J'aimerais juste vous citer un verset dans 2 Corinthiens 5:17 qui dit ceci. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle créature. Quand tu places ta foi en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, le pardon de tes péchés, tu es une nouvelle personne. Tu as une nouvelle identité. Après sa résurrection, Jésus avait demandé à ses disciples de le rejoindre à la montagne. Et tout juste avant son ascension au ciel, il va rencontrer ses disciples. Il va leur confier une mission. Et c'est à nous qu'il la confie. Il confie tout ça à nous autres. Et on va aller voir ça, cet appel qui se trouve dans Matthieu 28. Donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner dans Matthieu 28, verset 16. Matthieu 28, verset 16. Oui, des fois, quand on est nouveau aussi, c'est un petit peu difficile à trouver Matthieu. Je n'ai pas d'indice à vous donner parce que Matthieu, ça se trouve quelque part là. Ça ne vous aiderait pas bébé. Mais moi, en fait, comme moi, j'ai des onglets. Fait que, j'ai l'air bien savant d'avant, mais c'est, je triche un peu. J'ai des onglets qui me disent c'est où. Ça ne coûte pas cher, 4-5 piastres, vous allez pouvoir avoir ça. Messager chrétien. Fait que, d'accord? Alors, Matthieu 28, verset 16. Et on va lire jusqu'à la fin, verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne, que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, ça c'est Jésus qui nous dit ça, là. Moi, je suis avec vous jusqu'à la semaine prochaine. Comment? Oui, c'est ça qu'il a dit, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, en 2019, à l'église de Sentier, Jésus est où? Amen, il est avec nous autres. Gloire à Dieu, c'est exactement ça. Maintenant, quelle a été la réaction des disciples lorsqu'ils ont vu Jésus? Alors, ils se sont mis à l'adorer. Ils ont commencé à l'adorer. Mais le verset 17 est vraiment intéressant parce que ça dit « Quelques-uns ont eu des doutes. » Maintenant, ce que ça nous rappelle, c'est que la vie chrétienne, c'est vraiment un processus. On va grandir dans le Seigneur. On aimerait ça tout devenir comme Jean-Baptiste du jour au lendemain, mais ça ne marche pas comme ça. La vie chrétienne, ça prend du temps. On grandit. Les disciples, voilà que les disciples ont passé 3 ans et demi avec Jésus. À ce point-ci, après 3 ans et demi, ils ont vu Jésus enseigner. Ils ont vu Jésus faire des miracles, une tonne de miracles. Ils ont pu le voir après la résurrection. Ils l'ont vu mourir, ils l'ont vu après la résurrection. Ils ont pu toucher son corps ressuscité. Ils ont mangé avec lui. Alors, ça fait 3 ans et demi qu'ils passent avec lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Maintenant qu'ils l'ont vu agir, qu'ils ont vu ses œuvres, ils ont entendu ses enseignements, ce qu'il a enseigné sur lui, qu'est-ce qu'ils font après 3 ans passés avec lui? Ils commencent à l'adorer. Vous voyez? Ils ont appris qui il est, et puis là, ils ont commencé à adorer. Laissez-moi vous dire qu'un Juif n'adorait pas autre que Dieu. Seul Dieu pouvait être adoré. Ça, c'était bien enseigné parmi les Juifs. Mais voilà que ses disciples ont commencé à l'adorer. Mais malgré ça, quelques-uns ont des doutes. Et c'est vraiment intéressant, ça, parce que ça fait 3 ans et demi qu'ils sont avec Jésus. Ils ont vu faire des miracles, ils ont vu mourir, faire ressusciter, revenir des morts et tout ça. Et pourtant, ils ont encore des doutes. Est-ce que ça ne vous encourage pas, ça, de savoir ça? Hein? Que ça va nous arriver parfois, qu'on peut avoir des doutes. Et Dieu comprend ça. Ils ont vu mourir et tout ça, mais pourtant, ils ont des doutes. Ça sera... Et ce que ça nous dit, c'est que ça va être un parcours continuel comme chrétien pour nous de vivre la repentance et la foi en qui Dieu est et ce qu'il a fait pour nous autres. Maintenant, verset 18, Jésus dit ceci, il dit, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec ses disciples? Il y en a qui doutent. Jésus le sait, Jésus voit ceux qui doutent. Et non seulement ça, il voit les disciples. Les disciples aussi ont besoin de l'entendre. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Il commence, avant même de lui confier une mission, avant de faire ça, ce qu'il va faire, il va faire une déclaration sur lui-même. Tout pouvoir m'a été donné. Qui suis-je? Jésus veut fortifier la foi de ses quelques disciples. Et nous avons besoin constamment de nous rappeler qui est Jésus. Rappelez-vous qui je suis, dit Jésus. Premièrement, sachez que je suis Dieu, donc je peux vous dire quoi faire. Deuxièmement, sachez que c'est moi le patron, j'ai l'autorité au ciel et sur la terre. Donc, non seulement je peux vous dire quoi faire, mais vous aurez l'autorité de faire ce que je vous dis de faire, parce que je suis avec vous. Je veux donc que vous sortiez avec confiance, que vous alliez en mission avec confiance en ce qui je suis. Rappelez-vous qui je suis. Et à la lumière de ce fait-là, parce qu'à la croix, à la lumière de ça, rappelez-vous qu'à la croix, moi j'ai vaincu le mal. J'ai détruit Satan, j'ai détruit le péché, j'ai vaincu la mort. Rappelez-vous de ça, j'ai détruit l'ennemi ultime qui est la mort. Alors, vous n'avez pas à avoir peur. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Voyez-vous ce qu'il est en train de faire, Jésus? Jésus parle à leurs doutes. Il parle à nos doutes. Et voilà ce qu'on a besoin de faire, vous et moi. Je vous encourage donc à laisser les vérités de l'Évangile parler à vos doutes. Laissez-les vous sauver de votre manque de foi. Répétez constamment à vous-même ce que Jésus a fait pour vous. Jésus continue en disant, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la première chose qu'un disciple doit apprendre, avant même d'apprendre à obéir au Seigneur puis aller en mission, c'est qu'il comprenne sa nouvelle identité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu sais qui Jésus est, si tu sais qui tu es maintenant en Jésus-Christ, tu vas vivre d'une manière différente. Avez-vous remarqué combien de fois, on va lire dans les Écritures, combien de fois que Dieu va changer le nom de certaines personnes? Et un nouveau nom, c'est une nouvelle identité. Et ton baptême, le baptême que tu as reçu, peut-être pas encore, mais le baptême est une belle image de cette nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons un nouveau nom. Tu es maintenant dans le nom du Père, tu as été baptisé au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ça signifie que tu as une nouvelle identité, parce que le mot baptisé, qui vient du mot, le mot original baptizo, se réfère à quand tu prenais un morceau de tissu et tu le baignais littéralement, là, tu l'immergeais, tu rentrais dans l'eau complètement. Tu le trempais dans un colorant, et en le ressortant, la couleur avait saturé le tissu au point où tu pouvais maintenant dire, « Ah, regarde ce tissu rouge. » Avant, il était blanc. Maintenant, tu ne l'appelles plus blanc. Tu dis, « Voici le tissu rouge. Il a une nouvelle identité. Il a été saturé avec une nouvelle substance, et cette nouvelle substance lui donne maintenant une nouvelle identité. » Et c'est ça le baptême, ça représente ça. Notre baptême, c'est de dire publiquement que nous sommes morts en Jésus-Christ, ressuscités avec lui, et nous sommes maintenant unis à lui. Et tout ce qui est vrai de Jésus-Christ est maintenant vrai pour vous aussi. Nous avons une nouvelle identité, un nouveau nom. Nous avons été saturés du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de la prière de Jésus dans Jean 17. Il dit ceci, « Père, je te prie que tous soient un, comme toi, Père, tu es avec moi, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il dit que tout comme le Père et le Fils sont unis, nous aussi maintenant, nous devons être saturés, si saturés par Dieu, que les gens pourront nous regarder et dire, « Ah, Dieu est clairement avec ces gens-là. Vous êtes clairement de nouvelles personnes. Quelque chose a changé. » Jésus nous dit d'établir les gens dans leur nouvelle identité. C'est ça qu'on a besoin de faire les uns les autres. Et le baptême est un bel exemple, une belle image. On a un nouveau nom. Encore une fois, pensez au nom. Souvent, Dieu va donner des nouveaux noms à des personnes à travers les Écritures. Rappelez-vous d'Abraham. Il s'appelait Abraham. Et Dieu, Abraham, ne pouvait pas avoir les enfants. Incapable d'avoir les enfants, maintenant, il était rendu même trop âgé, 90 ans et tout ça. Il était pas mal âgé, sa femme aussi. Impossible d'avoir les enfants. Mais il va voir Abraham et Dieu dit, Abraham, je vais te bénir, je vais te donner des enfants, je vais faire un miracle, je vais te donner un fils et tu vas voir à travers ce fils-là, ça va devenir une multitude, ta descendance va être tellement incroyable, tu ne pourras même pas compter le nombre d'enfants qui vont venir à travers toi. Ça va être comme le sable de la mer. Et effectivement, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a fait un miracle, Abraham a pu avoir un enfant, même si sa femme était âgée. Et de cette descendance-là est commencée toute la nation d'Israël, si bien que quand Moïse rentre dans la terre promise plus tard, sont rendus quelques millions de personnes et c'est devenu la nation d'Israël. Mais c'est vraiment intéressant parce que Dieu va lui donner un nom, un nouveau nom, avant même d'avoir l'enfant. Et il va lui dire, je te donne un nouveau nom, Abraham. Tu t'appelles Abraham, maintenant tu vas t'appeler Abraham, qui veut dire le père des nations. En d'autres mots, c'est comme si Dieu était en train de dire, voici Abraham, ce que je vais faire. Je vais te bénir, je vais te donner un enfant, et ça va devenir une multitude. Et par cette bénédiction-là, d'autres, plein de gens à travers le monde seront bénis. Et c'est une prophétie que le Messie viendrait à travers tout ça et sauverait une multitude à travers le monde, des millions de personnes qui sont devenues nés de nouveau, des chrétiens qui ont placé leur foi. Et tout ça a commencé à travers cette promesse qui a été faite à Abraham. Alors, ce que Dieu est en train de dire, c'est que je vais te bénir, Abraham, te donner un enfant que tu n'es pas capable d'avoir, mais le bien que je te le fais pour éventuellement bénir les autres. Voyez-vous? Dieu nous bénit, fait une œuvre en nous pour qu'on puisse bénir et faire du bien aux autres. Alors, Dieu lui donne un nouveau nom, Abraham, qui veut dire le père des nations, alors que ce n'est même pas arrivé encore. Je vais te bénir et ta descendance, par ta descendance, toutes les nations seront bénies. Donc Dieu lui donne un nouveau nom pour montrer que ce qu'il fera à travers lui, tout ce que Dieu a fait pour vous, il compte aussi le faire à travers vous. Et ça, c'est clé. Lorsqu'il vous donne un nouveau nom, c'est pour dire, voici qui tu es maintenant. Voici ce que je veux faire en toi, mais voici ce que je veux faire à travers toi maintenant. Je veux te bénir. Et je veux bénir les autres à travers toi. Tu vas devenir une source de bénédiction autour de toi. Alors, regardons donc cette nouvelle identité que nous avons à travers la cérémonie du baptême. Premièrement, nous sommes baptisés au nom du Père. Qu'est-ce qu'on était sans Jésus-Christ, avant de devenir Jésus-Christ? Bien, la Bible est bien claire. Nous étions des enfants de colère, nous étions des pécheurs, nous avions une nature pécheresse, nous étions des ennemis de Dieu. Il y avait un mur qui nous séparait entre Dieu et nous. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Il y a une séparation et la conséquence du péché, c'est la mort. La Bible va même jusqu'à dire que nous étions des fils du diable. Ça veut dire que nous faisions comme le diable fait. Nous agissions comme le diable agit. Nous n'étions pas des enfants de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus vivants en Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils mourir pour nous, et en sa mort, il a fait de nous des enfants de Dieu. Alors maintenant, voici une nouvelle identité. Nous sommes des enfants de Dieu. On fait partie de sa famille. On a une famille maintenant. Nous avons été adoptés. C'est ça qui arrive lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ pour recevoir son salut. Nous sommes la famille de Dieu. Imaginez si vous êtes les enfants de Dieu, aimés de Dieu, lorsque nous étions des ennemis de Dieu. Dieu nous a aimés lorsque nous étions ses ennemis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va commencer à aimer les autres. La Bible dit que si vous êtes bien aimés, et c'est bien aimé, vous vous aimerez les uns les autres. Mais c'est comment, c'est de cette façon que les gens vont savoir que nous sommes les disciples de Jésus-Christ si on s'aime les uns les autres. C'est ça que Jésus a dit. Dans Jean 13, par exemple, ça dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » 1 Jean 4 dit que si tu connais Dieu, qui est amour, vous aimerez aussi les frères, vous aimerez les autres. Et si vous ne vous aimez pas les uns les autres, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas son amour. Donc, si tu sais que Dieu t'aime, tu aimeras les autres. Et tu les aimeras comme si c'était ta famille. C'est de cette façon qu'on doit aimer les gens autour de nous, même ceux qui ne sont pas aimables. Est-ce que vous connaissez des gens qui ne sont pas aimables autour de vous autres? Oh! OK. Pas de nom. Il y en a. Des gens qui ne sont pas très, très, très aimables, pas très, très gentils. Alors, mais on veut se poser une question. Y a-t-il des gens autour de nous autres, que ce soit des collègues, des voisins, des gens, en fin de compte, pour qui Dieu est en train de te dire, « Voici des gens qui ne connaissent pas l'amour du Père. Toi, tu connais cet amour-là. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Tu connais mieux l'amour de Dieu que n'importe qui. » Il y a des gens autour de moi, des gens autour de toi qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Et la façon de leur montrer, c'est en les traitant comme des frères, comme des sœurs, comme des mères, même ceux qui ne font pas encore partie de la famille de Dieu. Le Père est là, il veut les rejoindre en leur disant qu'il les aime et il le fait à travers nous. Ce que Dieu a fait pour nous, il veut aussi le faire à travers nous. Il veut maintenant que vous vous aimiez les uns les autres, comme une famille, même ceux qui rejettent l'amour de Dieu. Il ne faut pas abandonner, il faut persévérer, il faut continuer. Je comprends que nous avons parfois de la difficulté à aimer certaines personnes. C'est un bon rappel que nous avons besoin de prier. Et c'est pour ça qu'on s'entoure ensemble, on a 21 jours qu'on veut prier et qu'on veut demander à Dieu de faire des rendez-vous divins, créer des rendez-vous divins, de nous remplir de son amour aussi. Romains 5, 5 nous dit que Dieu déverse son amour en nous par son esprit qu'il a placé en nous. Dieu qui déverse son amour. Dieu peut et veut changer ton cœur, mon cœur, afin qu'on puisse aimer même ceux qui sont moins aimables. Dieu est en train de changer notre cœur. La Bible dit que nous avons été sauvés lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, lorsque tu as placé ta foi en Jésus. Dieu t'a sauvé, t'a donné une nouvelle naissance, t'a donné la vie éternelle. Tu as été sauvé de la pénalité des péchés. Mais sais-tu que la Bible dit aussi dans Éphésiens que nous sommes encore en train d'être sauvés, mais cette fois-ci, nous sommes en train d'être sauvés de la puissance du péché. Et ça s'appelle la sanctification, que Dieu est encore en train de nous sauver de nos péchés présentement. Non pas pour avoir la vie éternelle, ça c'est déjà réglé. Il n'y aura pas de condamnation. Nous avons été sauvés de la pénalité du péché. Mais nous sommes en train de progresser, grandir de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Ça, c'est la sanctification. On est en train de grandir. Dieu est en train de nous sauver présentement dans ce sens-là, de la puissance du péché. Et un jour, lorsqu'on entrera dans le ciel, dans la présence de Dieu, Dieu va nous sauver de la présence du péché. Ça, c'est la glorification où on va recevoir un nouveau corps glorifié, parfait. Mais en ce moment, Dieu est en train de nous sauver de nos péchés. Et il est en train de nous sauver de la haine. En train de changer notre haine et notre amertume, est en train de remplir notre cœur de son amour pour nous transformer. Et il continue à nous transformer. Parfois, être la famille de Dieu, c'est d'être à l'endroit, on devient l'endroit le plus sûr pour notre entourage. On veut devenir une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et parfois, même des gens sont craintifs devant nous, mais tranquillement, en leur démontrant de l'amour, de l'attention, de la compassion, parfois, les cœurs se changent et s'ouvrent. Moi, je me rappelle avec ma voisine, notre voisine, elle a eu de mauvaises expériences avec l'ancien propriétaire où est-ce qu'on demeure présentement. Et puis, lorsqu'on est arrivé, on s'est dit bonjour, puis ça, puis elle nous regardait toujours de travers un petit peu comme ça. Elle avait vraiment peur de nous autres. On a appris par après que l'ancien propriétaire était très méchant, était méchant avec ses enfants, était dur, puis était rigide. Vraiment, une personne tough, c'était dur. Alors, elle nous voyait à travers son ancienne expérience. Donc, elle nous regardait toujours de travers comme ça. C'est comme, c'est qui ces gens-là? Est-ce qu'ils vont faire du mal à mes enfants? Tout. Puis, il n'y avait pas moyen. Mais nous, on priait. On priait de notre côté pour que Dieu puisse toucher leur cœur. On voulait vraiment s'approcher d'eux. On voulait que Dieu fasse de quoi? Mais il y avait, mon Dieu, à première vue, c'était comme, bonjour, comment ça va? Puis tout ça, ça revient. Et c'était, OK. C'était vraiment pas facile. Mais tu pries. Et c'est ça qu'on veut faire à la Libération 21. On veut que Dieu fasse des rendez-vous divins. Imaginez-vous donc qu'un jour, je ne sais pas si je vous ai compté ça, je l'ai compté à quelques frères, mais un jour, ma femme est dans le stationnement, puis son petit gars, le petit jeune garçon, il arrive devant la maison, puis la porte est ouverte, grande ouverte, il était tout seul, il arrive de l'école, la porte est grande ouverte, puis là, mon ami panique, il a peur, il a commencé à que la porte est ouverte, on a tout boiré ça ce matin, puis lui, il est jeune, il est petit, là. Donc, sachant pas quoi faire, il court vers ma femme était là, fait qu'il s'en va la voir, la porte est ouverte et tout ça, tu sais. Fait que là, ma femme a dit, hey, normal, je voudrais aller voir s'il y a quelqu'un dans la maison. Et tout ça, c'est pas normal, ça a été barré un matin. Ah oui, tu veux que j'aille me promener là-dedans, puis il y a peut-être un bandit. Alors, je dis au petit gars, fais-toi dans le pas, fais-toi dans le pas, petit gars, m'a gueulé. Je rentre dans la maison. Hey, là, faut que tu fouilles partout. Puis vous savez, dans les films, les problèmes, c'est toujours quelqu'un caché derrière, derrière les portes. Fait que là, j'arrive dans les chambres, puis tout ça, tu sais, puis ça me dit, ben il faudrait que tu regardes, tu ouvres la porte, tu sais. Seigneur, aide-moi. Tu sais, là, il n'y a personne. Là, je fais, regarde en dessous du lit. Là, je regarde en dessous du lit, je me promène partout dans le travail de la maison, puis tout. Ah, sinon, j'ai eu peur. Je ne savais pas ce qui m'attendait là. T'sais. Puis t'sais, tu marches, puis. Non, mais tu vois ça dans les films, tu sais, c'est un peu. Tu sais, je sais pas. Et là, tu fais le tour de la maison, tout ça, tu sais. Et puis, et là, mon ami, j'ai. Là, tout était fini, il n'y a pas personne dans la maison. Oh! Le chat dort. OK, petit gars, j'ai fait le tour. Tout est beau. Et vous savez ce qui s'est passé? Sa mère était tellement contente. Ça l'a tout enlevé de la peur qu'elle avait et tout ça. Tellement contente. Écoute, elle est venue nous voir, elle pleurait, venue nous voir, et puis elle était au travail. Elle nous a donné un cadeau et tout ça. Puis mon ami, là, tout d'un coup, s'est rendu comme ça. On blague ensemble, on a du bon temps ensemble et tout ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un rendez-vous divin. Et là, on prie pour elle, pour que Dieu puisse, et son mari, que Dieu nous permette de leur présenter l'Évangile éventuellement. Mais il y a quelque chose de beau qui vient de se créer, là. Et ça, c'est des rendez-vous divins. Et c'est ça qu'on est en train de dire. C'est, ce mouvement de prière va créer, va faire en sorte qu'il va y avoir des rendez-vous divins dans vos vies. Vous allez voir, Dieu va ouvrir des portes. C'est fantastique de voir qu'est-ce que Dieu fait. Beaucoup de gens autour de nous ont besoin de vivre, de voir la grâce dans nos vies, avant de pouvoir y entendre parler d'Évangile. Le message d'Évangile, ça ne fait pas de sens. Si on va parler dans un sens d'amour de Dieu, mais il ne voit pas cet amour-là se traduire dans notre quotidien, notre façon de les traiter les autres autour de nous. Parfois, on parle du message, de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, comment Dieu les aime, mais ce que les gens voient, c'est de la colère, c'est de la haine, c'est de la méchanceté. Ça sonne faux, c'est une fausse note, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne fait pas de sens. Alors, ce que Dieu a fait pour nous, il veut le faire à travers de nous, parce que c'est comme ça que les gens vont savoir que le Père envoyer le Fils. Et c'est par notre amour envers les autres. Deuxièmement, nous sommes baptisés au nom du Fils. Tout l'Évangile de Matthieu nous présente Jésus comme étant le roi. C'est le but du livre de Matthieu. Fois après fois, vous avez des évidences que Jésus vient de la lignée royale, du sang royal, du fils de David, pour démontrer, prouver qu'il est le roi, et le roi des rois. Et puis avec les mages qui viennent adorer Jésus, avec la généalogie qui présente qu'il est effectivement... Il a les papiers qui montrent qu'il est de lignée royale, de sang royal et tout ça. C'est le but du livre. Donc, le Fils, c'est le roi. Il est le roi des rois. Il est celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Mais, pourtant, tu regardes les Écritures, qu'est-ce que tu vois de ce roi? Il est un serviteur. C'est fascinant. Il est venu, nous dit le livre de Marc, pour servir et non pour être servi. Et donner sa vie pour sauver le monde. J'aime beaucoup cet aspect de Jésus-Christ. Pensez à comment il aurait pu se présenter, le roi des rois, celui qui a créé toute chose, celui qui a créé l'univers, créé le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La plupart des rois se présentent avec beaucoup de gloire, beaucoup de bruit, de beaux vêtements, des chevaux, des chars, des armées. Mais Jésus, lui, se présente comme un petit bébé. Tu ne peux pas être plus vulnérable qu'un bébé. Né dans une crèche. Et les seuls à remarquer sa naissance, ce sont des bergers, puis encore là, c'est les anges qui sont venus le dire, allez-y. Écoutez, il a vécu dans une ville, c'est un trou vraiment, c'est comme pauvre, une famille pauvre. Il a vécu ses 30 premières années, personne ne savait qui il était. Il a travaillé comme un charpentier, une vie bien ordinaire, mais pourtant il était fidèle à Dieu. Jésus est venu comme le serviteur le plus humble de tous. De tous les gens qui devraient être servis, il est celui qui le mérite le plus. Et il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Pensez-y, Jésus est venu parmi nous et personne ne l'a remarqué. Là. T'es humble. S'il y a bien quelqu'un qui comprend notre existence, qu'on vit, c'est bien Jésus, parce que Jésus a vécu comme un simple homme, très humble, très simple. Quand les rois arrivent, eux autres, ils disent, « Mais moi, j'ai besoin de terre. Et pour avoir des terres, j'ai besoin de toute une armée pour aller conquérir ces terres-là. » Puis pour avoir des armées, ça prend de l'argent. Donc, j'ai besoin des sages qui vont venir parler de moi pour que je sois bon vis-à-vis le peuple et que j'ai de l'argent pour acheter des armées et payer des armées pour conquérir des terres, pour éventuellement faire des esclaves, pour qu'ils puissent me servir et bâtir mon royaume. Qu'est-ce que Jésus a fait, lui, de son côté? Il se montre et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus ne dit pas « J'ai besoin que vous me donniez ce que vous avez. » Non, qu'est-ce qu'il va dire? vous avez besoin que je vous donne ce que j'ai. Vous n'avez pas de terre, mais je vais aller vous préparer une place au ciel. Une demeure incroyable, glorieuse. Vous êtes pauvre, je suis riche. Je vais me rendre pauvre afin que vous puissiez être riche de toutes les bénédictions de Dieu, que vous puissiez devenir des héritiers de toute la gloire et des richesses célestes. Vous êtes esclave du péché? Alors je vais aller en prison dans les chaînes du péché et de la mort pour que vous puissiez être libérés du péché et de la mort. Je vais vous donner ce que vous n'avez pas pour que vous puissiez vivre d'une manière que vous ne pouviez pas vivre sans moi. Je vais vous donner un monde nouveau, je vais vous donner un royaume. Mon royaume sera votre royaume. Je n'ai pas besoin d'une bande de sages pour convaincre les riches de me payer des armées. Je suis la sagesse de Dieu et vous pouvez m'avoir en vous. C'est Jacques qui dit que si vous manquez un peu de sagesse, demandez-le au Seigneur, il va vous donner. Notre roi nous donne gratuitement, mais ça a coûté cher, n'est-ce pas? Ça a coûté sa vie à la croix. Alors Philippiens 2 nous dit, « Dieu l'a hautement exalté, il lui a donné le nom par-dessus tout autre nom. » Et Paul nous dit d'avoir la même mentalité, les mêmes sentiments en nous qui étaient en Jésus-Christ. Et nous pouvons l'avoir. Nous pouvons être des serviteurs, tout comme il est venu nous servir. Vous êtes maintenant les serviteurs du roi. Paul se réfère de cette manière-là, c'est son identité. Il dit, « Nous sommes les serviteurs de Christ. » Il dit que nous ne sommes pas seulement la famille de Dieu, comme on l'a vu tantôt, au nom du Père. Non seulement on était adopté dans la famille, mais nous sommes aussi des serviteurs, envoyés pour servir les plus petits, tout comme Jésus est venu servir. Un jour, Jésus a raconté une parabole d'un roi qui est assis sur un trône, et c'est une image de lui-même, et puis là, il y a une image des brebis et des chèvres, et puis il les divise en deux, d'un bord, certains à gauche, certains à droite, sur les chèvres, les brebis. Et Jésus dira aux brebis, « Lorsque j'avais faim, vous m'avez nourri. Lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais en prison, vous m'avez visité. » Et les justes seront surpris, disant, « Quand avons-nous vu et avons-nous fait ces choses? » Et j'aime ça parce que, vous voyez la déclaration qui se fait ici, les justes. Jésus, il l'appelle les justes, et ça fait partie de la famille de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Parce que juste avant, il vient de dire, « Je ne vous ai jamais connu. » Fait qu'il fait la différence ici entre les deux. Leur identité est ce qui a conduit leur conduite. Les justes diront, « Quand avons-nous nourri, donné à boire, visité en prison? » Et Jésus va répondre, « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, vous l'avez fait pour moi. Entre dans le royaume de mon Père. » Il se retourne ensuite aux chèvres et dit, « Lorsque j'avais faim et soif, lorsque j'étais nu, malade, emprisonné, vous ne m'avez pas donné à manger ni à boire. » Vous ne m'avez pas donné de vêtements. Vous ne m'avez pas visité. Vous n'avez rien fait pour moi. Et ils diront, mais quand n'avons-nous pas fait ça? Et il dira, ce que vous n'avez pas fait pour les plus petits d'entre vous, vous n'avez pas fait pour moi. Voici le point que Jésus tente de communiquer à travers cette parabole. Il vient de dire, éloignez-vous de moi juste avant, là, je ne vous ai jamais connu. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous saviez que j'étais le roi, et que j'étais venu vous servir lorsque vous étiez plus petit, vous serviriez les autres, mais ne vous le faites pas parce que vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous sauriez que vous étiez nus, et je vous ai vêtu de ma justice. Je suis venu pour vous vêtir de ma justice. Vous aviez la maladie du péché, et je vais à la croix pour me rendre péché, afin que vous soyez libérés de la puissance destructrice du péché. Vous étiez emprisonnés par les chaînes du péché et de la mort. Je les ai prises sur moi pour vous libérer. Vous aviez faim et je vous ai donné à manger de mon propre corps, car je suis le pain de vie qui rassasie les désirs les plus profonds de notre âme. Je suis mort pour vous rassasier. Vous n'aviez rien, je suis mort pour que vous puissiez tout avoir. Et si vous le savez et vous le vivez, et si vous savez que vous êtes les plus petits et que j'ai tout fait ça pour vous autres, vous allez le faire aussi pour les autres comme moyen de le faire pour moi. Et tout ce que vous avez fait pour les plus petits, vous l'avez fait pour moi. C'est un acte d'adoration. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que notre foi en qui il est et ce qu'il a fait va changer notre façon de vivre, va changer ce qu'on fait. Nous sommes donc ses serviteurs. nous sommes appelés à servir les autres et à les aimer d'une manière qui permet aux autres de connaître le roi comme s'il venait et régnait dans leur monde. Maintenant, il y a peut-être des gens pour lesquels Dieu est en train de te dire, aime-les comme une famille et donne-leur un avant-goût du royaume de Dieu. Donne-leur un avant-goût du royaume de Dieu. Fais-leur goûter un peu à la bénédiction qu'ils vont recevoir une fois leur vie dans les mains du Seigneur, dans l'éternité. Donnez-leur un exemple tangible de son règne avec vos mains, vos pieds, parce que nous sommes le corps de Christ. Le règne de Christ entre dans ce monde et les gens ont la chance de voir comment, c'est quoi l'avoir comme chef suprême et comme Seigneur. On représente Jésus dans notre milieu. C'est notre nouvelle identité, telle que représentée par l'image du baptême. Alors vous êtes baptisés au nom du Père, vous êtes de sa famille. Aimez-vous les uns les autres, comme une famille. Vous êtes baptisés dans le Fils, il est votre roi qui vous a servi pour que vous puissiez servir les autres comme il vous a servi. Donc apportez son règne au monde. Son règne est un règne de serviteur. Les plus grands dans le royaume sont les plus petits. La plus haute place dans le royaume revient à ceux qui sont prêts à s'abaisser et à servir les autres. C'est ce que notre roi a fait. Troisièmement, nous sommes baptisés au nom du Saint-Esprit. Jésus dit dans Jean 20-21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Dans Actes 1-8, Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. » Alors, comme Jésus a été envoyé par l'Esprit, par Dieu, nous sommes également envoyés par l'Esprit pour être ses missionnaires. Nous sommes donc ses témoins, ses représentants. Et si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez tout ce que Jésus avait pour faire ce qu'il a fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Il écrit dans Actes 4 que l'Église a prié Dieu. Ils ont demandé à Dieu de les aider à parler audacieusement, avec assurance. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, il y avait persécution. Alors, ils ont demandé humblement à Dieu, « Donne-nous de l'assurance de parler de toi. » Et c'est ce qu'on veut faire en Libération 21 pendant les prochains 21 jours. Et qu'est-ce qui est arrivé? La maison a tremblé, l'Esprit Saint est tombé sur eux, la maison a tremblé, ils sont sortis, ils sont mis à proclamer Jésus d'une façon audacieuse. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des milliers de personnes venir au Seigneur. D'ailleurs, Rodney Stark, dans son livre, qui est un sociologue, « L'essor du christianisme », un sociologue revisite l'histoire du christianisme des premiers siècles, rapporte qu'au cours des 260 premières années du christianisme, entre 5 et 7 millions de personnes sont venues au Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous quoi? Dieu veut faire la même chose avec toi. Il veut servir de toi pour proclamer son beau nom, faire connaître notre roi. Et on peut le faire. On a la puissance en nous, on a le Saint-Esprit en nous. Être baptisé au nom du Saint-Esprit signifie que vous êtes maintenant habité de la présence de Jésus. Vous avez en vous la même puissance qui a élevé Jésus d'entre les morts. Son Esprit est maintenant en vous et vous pouvez partager l'Évangile comme il l'a fait. Vous pouvez être une image du royaume, non seulement dans votre manière de servir, mais aussi en démontrant la puissance de Dieu qui change les choses par vos paroles. Tu partages l'Évangile puis il y a des vies qui sont transformées, c'est incroyable. Tu parles à quelqu'un de Jésus-Christ puis la personne reçoit Jésus. Se donne à Jésus-Christ. Et mon ami, tu vois sa vie commencer à se transformer. J'ai vu des couples qui étaient séparés depuis 11 ans qui sont revenus ensemble lorsque la personne est revenue au Seigneur Jésus, lorsqu'elle a découvert l'Évangile. Humblement appelé son ex 11 ans après pour dire « Qu'est-ce que tu dirais qu'on viendrait ensemble? » C'est fameux par une prédication, par une parole que quelqu'un lui a partagée. C'est fameux, c'est puissant l'Évangile. Alors, on peut parler, des gens peuvent venir au Seigneur. Vous pouvez proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Le Saint-Esprit peut être en train de travailler à ce moment-là. Et on ne pense pas à ça, on oublie ça. Lorsque vous êtes en train de parler de Jésus-Christ, Dieu a un rendez-vous. Il a peut-être préparé de quoi pour cette personne-là, pour que cette personne soit réceptive à l'Évangile. Il est en train de faire des choses dans sa vie. C'est magnifique de voir ça. C'est un miracle. Et on peut faire partie de ça, vous et moi. Ce que Dieu fait pour nous, il veut aussi le faire à travers nous. Alors, voici notre nouvelle identité. Maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, voici notre nouvelle identité. À travers ces trois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voici ce que nous sommes devenus. Nous sommes une famille. Alors, au nom du Père, nous avons été adoptés. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Alors, nous sommes une famille de serviteurs. Au nom de Jésus, missionnaire, le Saint-Esprit nous envoie. Nous sommes une famille de serviteurs missionnaires. C'est ce que tu es si tu es en Jésus-Christ. C'est ce que je suis. Et c'est ce qu'on veut développer dans le cours des prochaines semaines. Ça va être le thème. La semaine prochaine, Dominique va revenir sur la question de la famille. La semaine suivante, Alexandre sur le service. La semaine suivante, sur la mission, missionnaire avec Éric. Alors, engageons-nous, frères et sœurs, bien-aimés. Engageons-nous. Allez chercher votre bracelet, mettez votre nom. Moi, je veux faire partie de ce réveil-là. Je veux prier que Dieu fasse un réveil dans ma famille, dans ma vie, autour de moi. Amen. Et Seigneur Dieu, combien on aimerait voir ton œuvre, faire que tu puisses faire une œuvre merveilleuse dans la vie des gens que nous aimons et même des gens qu'on ne connaît pas, que tu puisses faire un miracle dans notre quartier, dans notre milieu, que tu puisses faire un miracle, Seigneur, à notre travail, que des gens puissent venir à toi. Et Seigneur, on te prie qu'un grand nombre de l'Assemblée puisse se joindre ensemble dans ce mouvement de prière. On veut faire appel à toi, que tu puisses venir toucher nos quartiers, toucher cette ville avec le beau nom de Jésus. Amen.